L'épidémie et le confinement peuvent avoir un impact sur notre santé mentale. On en parle avec Fabienne Torregrossa qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors Fabienne, vous êtes psychologue spécialisée en Gestalt thérapie. Moi, j'ai quelques petites questions à vous poser, notamment sur les conséquences que peut avoir un confinement sur la santé mentale finalement.
Oui, tout à fait. Et le confinement, de toute façon, n'est pas une situation naturelle pour personne. On le traverse depuis de nombreux jours tous ensemble maintenant. Et rester enfermé chez soi, c'est pas forcément sans conséquences psychiques. Ben, vous avez pu tous et toutes vous en rendre compte, certainement. C'est une situation de changement qui va faire appel à toutes nos ressources d'adaptation. Et certainement que depuis 50 jours, vous en avez découvert deux nouvelles. Voilà, donc rien de plus normal que de traverser cette période de crise avec plusieurs phases, des phases qui ressemblent d'ailleurs aux étapes du deuil, puisque l'on a vécu une perte et une annonce qui a pu choquer beaucoup d'entre nous. Ces étapes-là, nous les avons tous traversées et puis elles se remanifestent à nous à certains moments au fil des annonces successives et puis de ce que l'on peut traverser chacun dans nos vies.
Oui, il faut sans doute relativiser en fait pour se rendre compte qu'en fait on est tous dans la même situation aussi, que c'est pas des cas personnels quoi.
C'est ça. En fait, cette période de confinement, elle nous confronte à des émotions que nous connaissons déjà plus ou moins en fonction de notre histoire, comme l'anxiété, la peur, la colère, la frustration, l'ennui et parfois l'abattement. En fait, c'est une période d'incertitude qui est très stressante. Et on a besoin, chacun, de se créer un espace de sécurité psychique. C'est ce à quoi vous vous employez depuis le début du confinement. En fait, le confinement, il ne crée rien. Il ne fait qu'amplifier des émotions et des comportements que nous avons déjà en réalité.
Et donc, du coup, alors, comment est-ce qu'on peut gérer ces émotions pendant le confinement ?
Eh bien, je vais vous faire une réponse un petit peu étrange. Gérer ses émotions pendant le confinement, c'est pas très différent que de les gérer en dehors du confinement. Encore une fois, le confinement, il ne crée rien, il amplifie. Si vous avez l'habitude de nier vos émotions en dehors du confinement, mais c'est pas très nouveau, c'est certainement ce que vous avez tendance à faire aussi pendant le confinement. Donc moi, j'avais peut-être envie de vous donner des petites situations ou des petits exemples et puis vous raconter rapidement ce que c'est qu'une émotion. Est-ce que ça peut vous intéresser ?
Bien sûr, bien sûr.
Alors en fait, une émotion, la clé, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une émotion, c'est quelque chose qui veut vous dire quelque chose. En fait, une émotion a quelque chose à vous dire. En fait, c'est un processus biologique très fin, au même titre qu'une courbature au lendemain d'un effort physique intense, elle va vous dire qu'il faut mettre votre corps au repos. En fait, une émotion, elle est toujours positive, même quand elle n'est pas du tout agréable, et elle vous apporte un message essentiel. Et ce message, si vous ne l'écoutez pas, et bien peut-être encore plus en période de confinement, il va revenir toquer à votre porte encore plus souvent et encore plus fort. Parce qu'en fait, derrière une émotion se cache un besoin. Et ce besoin est très positif et il attend que vous le regardiez et que vous fassiez des actions pour le satisfaire en réalité. Est-ce que vous voulez quelques petits exemples sur des émotions qu'on traverse tous en ce moment ?
Bien sûr, ça intéressera évidemment tous nos auditeurs qui sont dans cette situation.
Alors par exemple, en ce moment, vous pouvez traverser des périodes de peur, d'anxiété très fortes. Et c'est derrière cette peur et cette anxiété, il y a un besoin qui est un besoin de sécurité. Et si vous ne le regardez pas, ce besoin, il va s'amplifier. Vous allez certainement avoir des comportements encore plus anxiogènes pour vous, jusqu'à ce qu'enfin vous décidiez de regarder la peur. La vraie peur, celle qui est cachée derrière une anxiété un peu diffuse, qui va un petit peu entacher tout votre quotidien. Et simplement, l'idée, c'est de se poser calmement et de se dire « Ok, j'ai peur, je suis anxieuse depuis plusieurs jours, ça va pas, il y a un fond en moi d'anxiété, de peur qui grandit. Je viens de regarder BFM et c'est encore pire. Donc, je me pose et je regarde ça. » Et vous allez essayer, soit seul, soit en parlant avec votre conjoint, soit en parlant avec un ami, par exemple, d'aller vraiment regarder de quoi est-ce que vous avez peur, vraiment. Et puis peut-être que cette peur, vous allez pouvoir lui associer des actions pour pouvoir l'apaiser. Elle va peut-être revenir, mais en tout cas, vous la connaissez, vous l'avez vue et vous allez pouvoir agir sur elle sans qu'elle continue à pourrir votre quotidien et à s'amplifier finalement.
L'importance, en fait, c'est surtout de ne pas fuir et d'affronter ces peurs, ces émotions telles qu'elles sont, sans les voir comme négatives de premier abord.
Oui, l'idée, c'est qu'au plus vous allez la repousser, au plus elle va demander à nouveau à s'exprimer, et au plus vous allez, quelque part, c'est étrange, mais inconsciemment faire en sorte qu'elle réémerge.
Et comment est-ce qu'on peut créer vraiment de la pensée positive?
Alors certainement que depuis le confinement, chacun, chacune, vous avez eu la nécessité de trouver des zones, des petites bulles, des moments, des choses en tout cas, ou des comportements qui vous faisaient ressentir ces pensées positives. Je vais vous donner un petit peu un exemple de ce qui a pu se passer en début de confinement. Alors c'est un petit peu caricatural, mais l'idée c'est de comprendre que le confinement, il a amplifié notre manière de percevoir le monde. Par exemple, si de manière assez commune, vous voyez plutôt le monde comme un verre à moitié vide, vous avez certainement mis en place des comportements ou sélectionné des informations dans votre environnement pour continuer à le voir encore plus à moitié vide et pour nourrir votre anxiété, qui est certainement chez vous assez courante. Si au contraire, vous voyez plutôt le verre à moitié plein d'habitude dans la vie, peut-être que vous avez eu des comportements qui ont pu amplifier cela, en vous jetant à corps perdu dans plein d'activités, en allant sur les réseaux sociaux, en tournant des vidéos, etc., pour vraiment ressentir encore plus que le verre est à moitié plein. Sauf que le verre, il est ni à moitié plein ni à moitié vide. Le verre, il est comme il est aujourd'hui, et il va falloir qu'on traverse de l'anxiété, même si d'habitude on a plutôt envie de traverser de la joie. Il va bien falloir qu'aussi on reconnecte à notre joie, si d'habitude on a envie de gérer plutôt de l'anxiété ou on sélectionne dans notre environnement ce qui nous rend anxieux. En fait, on essaye tous de rester en équilibre psychique et on a tous dû certainement faire appel à de nouvelles ressources. Alors concrètement, les pensées positives, elles vont émerger quand vous allez ressentir plutôt de la joie, plutôt de la fierté, plutôt du partage. Donc ces pensées positives, moi j'ai pu évidemment parler avec beaucoup de personnes très différentes pendant ce confinement. L'idée, c'est de vraiment rester doux et tolérant avec soi et avec les autres. Je connais des personnes qui se sont dit, mais chaque jour, je me fixe un petit objectif qui va me rendre fière de moi ce soir. Voilà, donc ça a pu être vraiment des choses très différentes. D'autres personnes qui se sont dit, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de parler encore plus que d'habitude, qui se sont rendues encore plus sur les réseaux sociaux pour des apéros Skype ou communiquer avec leur entourage. D'autres personnes ont développé ou se sont connectées avec des méthodes de relaxation. Alors certaines, bien sûr, se sont mises à la méditation. Certaines personnes n'arrivent pas à méditer. Moi, j'en fais partie. Méditer, pour moi, de façon statique, c'est très complexe. Donc, j'ai décidé de plutôt faire de la méditation active. Voilà, en fait, l'idée, c'est d'être pleinement en conscience de ce que vous êtes en train de faire. Et je vous garantis qu'une ratatouille faite de manière consciente, c'est une délicieuse ratatouille. Voilà, danser pendant une demi-heure à la maison, sans personne qui vous regarde, juste pour le plaisir de se décharger physiquement et d'accéder à la joie. En fait, chacun va trouver, certainement a déjà trouvé, avec des essais et des erreurs, des choses qui ont pu leur faire du bien. Il faut se connecter à ça le plus possible.
Oui, c'est sûr que c'est essentiel de pas non plus essayer de refaire des mécanismes existants comme parce que on dit que le yoga ou la méditation ça fonctionne, peut-être que sur l'un ou l'autre ça ne pourra pas fonctionner en fait, c'est à soi-même de trouver son propre échappatoire, son propre exutoire. Donc il faut faire des tests en effet.
Et il faut faire des tests, des essais, des erreurs et puis c'est ce que je vous disais au début, on reste connecté avec nos émotions. Si en pleine session de yoga, il y a un ennui qui vous envahit et une envie d'arrêter,
c'est que c'est pas pour nous.
C'est que c'est pas pour vous. C'est que ça, c'était pas pour vous. Et l'ennui, c'est une émotion qui est très positive et forcément, on l'a tous ressenti à un moment donné dans ce confinement. L'ennui, c'est quelque chose qui veut vous dire, connecte-toi à ce dont tu as vraiment besoin, toi. C'est chouette, t'as essayé quelque chose, mais ça, c'est pas pour toi. Donc écoutez-le l'ennui, parce que sinon vous allez sortir frustré de votre séance de yoga et vous allez plus jamais vouloir entendre parler d'une approche corporelle par exemple, et ce serait dommage. Donc l'ennui, comme toutes les autres émotions que l'on traverse, on la regarde, on l'analyse, et derrière va naître un besoin de créativité ou un besoin de se connecter à nos vraies ressources qui nous appartiennent à nous et d'en expérimenter d'autres, tout simplement.
Prochaine question, Fabienne, quels sont les principaux facteurs de stress identifiés ?
Alors, les principaux facteurs de stress qui sont identifiés durant ce confinement, je pense qu'on les a tous expérimentés. Alors, des facteurs de stress importants et qu'heureusement nous ne traversons pas tous, ce sont des facteurs liés aux dimensions matérielles et financières. Il y a des personnes qui ne mangent pas à leur faim durant ce confinement ou qui n'ont pas un espace vital suffisamment confortable pour traverser, j'allais dire, de manière confortable, positive, ce confinement chaque jour. Il y a également des gens qui vivent dans des environnements violents, physiquement, psychiquement, et ce sont bien sûr des facteurs de stress importants qui vont venir prendre la place, toute la place au quotidien. Tout à chacun, on peut également ressentir de la peur d'être infecté pour soi, pour ses proches, un sentiment d'isolement causé par la perte des contacts physiques et sociaux. Ça va être un facteur de stress plus ou moins important pour les personnes, une grande incertitude, une perte de contrôle sur sa vie. Et ça peut être parfois très difficile de se projeter. En fait, on n'est pas en train de gérer du risque là. On est en train de gérer de l'incertitude et on ne peut pas forcément faire appel aux ressources, à nos ressources habituelles pour faire face. Il va falloir en développer d'autres. Mmh. Et puis, les informations sont parfois confuses, contradictoires et ça peut être une source de stress aussi très important pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va être aussi l'ennui, la frustration, l'inactivité avec un environnement extérieur à la maison qui nourrissait beaucoup nos vies. Il va falloir à ce moment-là s'adapter et arriver à faire autrement. Et puis, bien évidemment, au sein de chaque foyer, il y a certainement des tensions relationnelles qui ont fait jour dans le couple, dans le cercle familial. C'est quasiment inévitable en 50 jours de confinement aujourd'hui. Et puis, paradoxalement, à l'approche du déconfinement, il peut y avoir de nouveaux facteurs de stress, puisqu'il nous a fallu abandonner l'idée que nous maîtrisions. Donc, il a fallu un petit peu lâcher prise par rapport à ça et lâcher la notion de choix. Mais là, aujourd'hui, nous avons à nouveau des choix à faire. Donc, pour chacun, vraiment se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de vivre et comment j'ai envie de vivre la fin de ce déconfinement. Et vraiment regarder que nous avons des choix chacun à faire pour bien vivre le déconfinement. L'idée, c'est vraiment de faire des choix éclairés qui correspondent à notre perception du monde et à notre perception du risque. Ni plus, ni moins. Mais vraiment réfléchir à ça pour chacun.
C'est vrai qu'on a été quand même dans des phases d'adaptation, de réadaptation, des choses qui peuvent être nouvelles, hein, des nouveaux terrains de vie, en fait, nouvelles façons de fonctionner. C'est un sacré chamboulement pour chacun, mais aussi pour les enfants. Que dire aux enfants par rapport au coronavirus pour pas les inquiéter, pour pouvoir cohabiter ensemble sans stress par rapport à eux?
Alors moi, ce que j'ai déjà envie de dire, c'est plutôt que de leur dire des choses, ouvrons un espace de dialogue. Nous avons des projections sur ce que peuvent penser nos enfants, sur les craintes qu'ils peuvent éventuellement avoir, sur comment ils perçoivent les informations, est-ce que nous les filtrons, est-ce qu'ils écoutent avec nous ces informations. Donc moi j'ai envie de dire déjà écoutez-les, c'est-à-dire interrogez-les sur déjà eux. Pour eux, qu'est-ce que c'est que ce coronavirus? Et puis comment ils sentent la famille? Et puis comment ils sentent papa et maman, les frères, les sœurs par rapport à ça? Quelle est leur perception de retourner ou pas à l'école? Et vous allez être surpris peut-être de voir qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris comme des adultes. Donc vraiment, aller à leur rencontre, j'ai envie de dire, il ne faut pas, mais j'aime pas dire ce mot-là, mais faites-en un sujet qui n'est pas tabou, où vous pourrez vous aussi exprimer vos craintes, vos doutes. Alors bien sûr, avec des mots que les enfants peuvent comprendre, mais ils auront du coup, eux, l'autorisation aussi de vous dire. Et l'échange doit se faire souvent dans la famille. à des moments de repas ou à des moments du bain, à des moments qui peuvent être aussi légers, où tiens, il y a quelque chose, un questionnement qui émerge et vous allez pouvoir rassurer votre enfant. C'est difficile de rassurer un enfant lorsque nous-mêmes nous ne le sommes pas. C'est très complexe pour un parent. Mais déjà, d'écouter ses peurs, d'écouter ses doutes, ses craintes, et puis parfois d'écouter ses joies, parce qu'il y a des enfants qui ont vécu vraiment des moments et qui continuent à vivre des moments très précieux pour eux, avec papa, maman à la maison. Voilà, ne présupposez pas de ce qu'ils ressentent. Allez vraiment à leur rencontre.
Merci beaucoup Fabienne pour toutes ces informations éclairées. À très bientôt.
Un plaisir.
Bonne fin de confinement.
Merci, au revoir à tous.